Docteur Chesson, bonjour.
Bonjour.
Comment va l'hôpital aujourd'hui en France ? Vous dressez dans votre livre un tableau assez sombre.
L'hôpital va mal. Mon livre est un livre d'amour pour l'hôpital, mais aussi un cri d'alarme. L'hôpital va très mal.
Vous parlez d'ubérisation du système hospitalier, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, bien sûr, le numérique, bien sûr, l'administration est indispensable. Mais je pense que les médecins, les infirmières ont beaucoup de choses à dire et je crois, sans esprit polémique, il faut qu'ils soient écoutés. Car c'est eux qui sont dans les services, qui sont là la nuit, aux urgences, au bloc, et ils savent ce qu'il faut faire. Bien sûr, ils ont besoin de l'aide d'administration, mais il faut qu'ils soient écoutés. Et ça, c'est très important.
Est-ce que l'État a les moyens de les écouter ?
Je pense qu'il y a une prise de conscience. En plus, nous avons la chance d'avoir une ministre qui est médecin à Necker, et qui connaît les problèmes. Et je pense qu'on est à un moment très particulier, mais c'est 20 à 25 ans, si ce n'est 30 ou 35, de décisions qui nous conduisent à la catastrophe où on est maintenant. Il ne faut pas croire qu'il y aura de recettes magiques. D'abord, la première chose, la démographie médicale. Simplement un chiffre. 19 000 postes de médecins sont vacants dans les hôpitaux. Alors bien sûr, on va supprimer, et c'est déjà fait, le numerus clausus, mais pour former un chirurgien, c'est 13-14 ans. Et donc, il va falloir passer à travers des moments qui vont être difficiles. Et il faut dire la vérité.
Alors, vous parlez du nombre de médecins en diminution. Vous êtes chirurgien depuis 40 ans. Pour vous, pour votre métier, qu'est-ce qui a véritablement changé ?
Ce qui a changé, c'est d'abord la technologie. La technologie est absolument à tout bouleverser, la nécessité de formation en permanence. Et puis, ce qui a vraiment changé, alors moi je vous dis, c'est le chirurgien basique le matin. Ça devient un tour de force d'amener un malade au bloc. Alors, ça paraît complètement stupide.
Ça, on le voit très bien, il y a même à un moment un embouteillage quasiment pour un bloc lors de l'intervention pour un patient.
Oui, mais c'est en permanence. Je m'excuse, je prends la comparaison. C'est comme si vous n'aviez pas accès à un studio. Nous n'avons pas accès au bloc parce que c'est un dysfonctionnement qui remonte. D'abord, le problème des lits, puis le problème des infirmières anesthésistes qui sont pas assez nombreuses, les IBOD, les infirmières de bloc opératoire qui sont pas nombreuses, les anesthésistes qui sont... Et donc, on essaye de faire des miracles, mais il y a des goulots d'étranglement par manque des compétences. Et ça... ça va être très difficile à corriger.
Alors, vous êtes président de l'ONG La Chaîne de l'Espoir. Vous voyagez énormément, vous travaillez énormément dans différents pays de la planète. Comment considérez-vous le système hospitalier français par rapport aux autres systèmes hospitaliers ?
Je vous ai dit juste auparavant que c'était un cri d'amour pour notre système. Nous avons le meilleur système au monde. La sécurité sociale, c'est un joyau qui, je dirais, qui devrait tous nous souder. Il faut sauver cette sécurité sociale. J'ai fait la chaîne de l'espoir et je voudrais bien faire une ONG pour sauver la sécurité sociale. Et je suis désolé de le dire. La sécurité sociale, c'est devenu open bar à tous les étages. Tout le monde abuse et tire sur cette pauvre sécurité sociale. Je suis désolé de le dire, les patients, les médecins, les chirurgiens, les ambulanciers, les taxis, et ainsi de suite, les arrêts de travail injustifiés. Et tout ceci, il faudrait qu'on ait le courage de le reconnaître et de collectivement sauver notre joyau qu'est la sécurité sociale. Pas un médecin, ou peu, ou pas un patient, a simplement l'idée de ce que coûtent les soins. Je vous dirais, vous m'avez demandé qu'est-ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai fait un pontage. J'ai remplacé une artère par une veine. C'est une opération qui va demander 8 à 10 jours. C'est une opération qui va coûter à la collectivité environ 8 à 10 000 euros. Le patient va sortir, il ne sait même pas que la République française, que les citoyens, dans leur solidarité nationale, ont payé 8000 euros pour lui. Et vous avez des tas de traitements, des chimiothérapies, des greffes, c'est 50, 100 000 euros. Et je voudrais qu'on reçoive un petit mot. La République française a réglé pour vous, pour votre opération de la hanche, 6800 euros. Et je vous assure que d'abord, on serait fiers, on serait responsables, et peut-être qu'on arrêterait les plaintes et complaintes qui parfois sont injustifiées.
Dans votre livre, je reviens à la chaîne de l'espoir, c'est une sorte de soupape pour vous. Vous êtes fier de ce travail que vous avez pu effectuer, que ce soit à Kaboul, que ce soit au Mali?
Je suis fier pour d'abord personnellement, je le dis. Je suis content pour les patients, parce qu'ici je soigne, là-bas on sauve. Et puis, je suis terriblement fier de ce qu'est l'école de médecine française. Elle est recherchée, enviée, imitée dans le monde entier. C'est une école d'excellence. Et quand je reviens, je suis ébahi de ce que notre système est magnifique. Alors bien sûr, il est en souffrance, et je l'ai dit juste auparavant, mais nous pouvons le sauver collectivement. Mais c'est pas la responsabilité du gouvernement. Si, bien sûr, le gouvernement. Mais c'est pas ce gouvernement où je me fous de savoir la droite, la gauche, le ceci. C'est depuis 25 ans, 30 ans qu'il y a eu des mauvaises décisions. Et aussi des abus perpétuels. Et donc, ayons le courage de l'assumer, de le corriger, et je vous assure que notre sécurité sociale, notre lien national, notre trésor national sera sauvé. Et je vous assure, j'ai fait Médecins du Monde avec quelques amis, et bien sûr Bernard Kouchner, j'ai fait la chaîne de l'espoir avec bien d'autres, j'aimerais bien faire une ONG qui soit, dont le seul but soit de défendre notre sécurité sociale.
Je reviens une dernière fois sur la chaîne de l'espoir. Vous étiez en colère tout à l'heure parce que vous disiez que c'était pas normal que les étudiants étrangers, notamment africains, si on prend cet exemple-là, ne puissent plus venir en France, ou que ce soit beaucoup plus difficile de les faire venir, et même les médecins qui sont déjà formés ne puissent pas travailler dans un bloc opératoire français à Paris, par exemple.
Oui, bien sûr, nos collègues togolais, ivoiriens, maliens et de beaucoup de pays en difficulté n'ont qu'une idée, venir se former en France. Et je dis bien sûr se former, ils repartiront chez eux. Mais la France est un territoire qui, pour ces jeunes étudiants ou ces chirurgiens en formation, est inaccessible. Pour des raisons de visa, c'est impossible d'accéder à nos hôpitaux de plus en plus, et c'est impossible d'accéder à nos blocs opératoires. Ou alors, on les prend et ils restent chez nous, et c'est une catastrophe pour leur pays, et ils sont là uniquement dans les endroits difficiles, inaccessibles, et vous les voyez le 15 août, le 31 décembre au soir et pendant les fêtes. Et donc, je pense qu'il faudrait imaginer, et j'en ai parlé à beaucoup de responsables politiques, et la chaîne de l'espoir serait tout à fait capable de le réaliser, puisqu'elle fait venir des enfants en France pour les opérer, aucun n'est resté en France, je demanderais qu'on réalise ce que j'appellerais une fast track, c'est-à-dire un accès rapide pour nos collègues médecins qui viennent se former aux nouvelles technologies pour un mois, deux mois, quatre mois. Et ils repartiraient chez eux pour apporter ce savoir qui est indispensable pour leur pays où ils sont souvent en grande difficulté.
Docteur Éric Chesson, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « L'arrogance du bistouri » paru aux éditions Hugo Doc.